Et c'est du bon sens qui a un fondement spirituel. Vous voyez, c'est pas juste des maximes, c'est pas les caractères, par exemple, de la Bruyère. Non, c'est pas ça, c'est quelque chose d'autre. Alors, j'espère vous communiquer ça ce matin. Ce livre nous parle du Seigneur Jésus. Ce livre nous parle du Saint-Esprit. Il nous parle de la marche par la foi. Il nous parle de la connaissance. Il nous parle de l'écoute. Il nous parle de nos échecs, de nos victoires, de la pédagogie du Seigneur qui nous accompagne chaque jour. Il nous parle aussi du principe de la soumission les uns aux autres. Ce n'est pas des beaux conseils, c'est des balises, c'est des vrais repères. C'est pas, encore une fois, ce n'est pas de la philosophie. On peut voir aussi, par exemple, dans les proverbes où La Fontaine a trouvé ses idées pour les fables. Donc, oui, c'est intéressant. Quel copieur, c'est La Fontaine. Voilà, lisez la Bible au moins, on est sûr de ça. Hein ? Donc c'est le livre des proverbes, c'est les bénédictions qu'on peut en retirer, et dans ce sens-là, il est fantastique. Alors, de grâce, on est le 10, peut-être ce soir attaquez le chapitre 10, mettez-vous dans le rythme des proverbes, vous allez voir que c'est incroyable, c'est du champagne, ça pétille, ça... Voilà, c'est assez incroyable. Alors je vais me calmer, mais on va revenir au livre des Proverbes. Et puis à la fin, je vous partagerai aussi, il y a un des versets dans ce livre qui est certainement le verset peut-être le plus incroyable de l'Ancien Testament. Donc ça vous obligera à patienter. Alors, le livre des Proverbes, il nous parle de quoi ? D'abord, il nous parle de l'homme placé dans une relation avec Dieu. Mais une relation spéciale avec le Dieu de l'Alliance. Et dans les proverbes, le nom de Dieu qui est employé quasiment tout le temps, c'est l'Éternel. Par opposition, dans l'Ecclésiaste, c'est le mot qui est employé, c'est le mot de Elohim. Alors ça semble anecdotique, pourtant c'est hyper important. Parce que Dieu, dans le nom de l'Éternel, il s'adresse à ceux qui sont en relation avec lui. Parce que sa sagesse les a engendrés. Et c'est pour ça que le mot « fils » revient aussi souvent. Nous sommes ses enfants. Mais ce nom de fils, ce n'est pas uniquement une relation. C'est ce que j'ai réalisé en préparant ce message. Ce nom de fils, il signifie aussi que chacun de nous, ce qu'on porte, c'est dépendre d'une autorité instituée par Dieu. Nous sommes devenus ses enfants par sa volonté. Donc on représente cette autorité. Alors cette autorité, ce n'est pas une autorité légale qui menace, qui condamne. Non, c'est une autorité qui est basée sur une relation d'affection, d'amour. Ça a été dit tout à l'heure par Catherine. Les parents, père et mère, sont les représentants de cette autorité ici-bas. Ils pourvoient à l'éducation du fils par l'instruction, de la fille aussi. Hein. On ne les met pas de côté quand même. Mais aussi la discipline et parfois des châtiments, hein, des corrections, même si, si c'est nécessaire. Bien sûr, dans cette salle, il n'y a pas que des petits, donc il y a des plus grands. Donc au-delà des parents, il y a d'autres représentants de l'autorité auxquels il faut prêter l'oreille. C'est ce qui est dit dans ce livre. Cette sagesse, cette autorité, sont remplacées pour nous chrétiens par quoi ? Par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Par l'autorité déléguée, hein, les pasteurs, par les frères et sœurs. Hein, c'est tout cela, c'est ce corps spirituel, nos parents, en fin de compte. Donc, il va sans dire aussi que la sagesse s'adresse à tous les hommes, évidemment, parce qu'avant d'être ses fils, ben, il faut le rencontrer, en vue, le but, d'en faire ses enfants. Elle n'est pas sagesse seulement, elle est aussi grâce. Elle engage tout le monde à avoir des oreilles pour entendre. Elle est à la fois une personne, elle est à la fois la parole de Dieu. Elle appelle les hommes à revenir de leur mauvaise voie et à entrer dans la présence de Dieu. On est tous concernés. Elle nous appelle à donner la première place dans notre cœur et elle nous explique en quoi consiste la crainte de l'Éternel. Donc, sous un certain rapport, quand vous le lirez tous les jours, les proverbes, c'est semblable à l'évangile, en fin de compte. Il y a une très forte analogie. Parce qu'elle s'adresse à tout le monde. Elle veut que tous les hommes soient sauvés pour devenir ses enfants. C'est vraiment l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Elle appelle à la repentance. Et son rôle, dans les chapitres 8 et 9, c'est fondé sur la grâce. Donc la sagesse, contrairement des fois à ce qu'on peut penser, elle ne consiste pas à s'occuper du mal, hein, parce que le mal, on est des êtres faillibles et son seul contact nous contamine. Non, la sagesse, ça consiste à s'occuper du bien pour éviter le mal, en le haïssant. Petit à petit, la transformation dans notre cœur fait qu'on va commencer à haïr le mal. Alors que si on dit qu'on veut haïr le mal, si on ne s'appuie pas sur Dieu, on n'y arrivera pas. On tombera dans des lois, mais ça ne marchera pas, ça ne marchera qu'un temps. Puis à un moment donné, on craquera. Alors, les 9 chapitres, puisque c'est de l'introduction, ça fait une forme, une sorte d'introduction. Et après, au chapitre 10, il y a les proverbes, proprement dit. Proverbes de Salomon, ça occupe à peu près 20 chapitres. Les 5 derniers, c'est bien c'est une culture aussi. Donc, ont été écrits, transcrits par les gens d'Ézéchias, qui a été roi de Juda. Et puis, les 2 derniers chapitres, c'est un peu ajouté comme appendice, ils contiennent les paroles d'Agur et l'autre, les paroles du roi Lémuel. Voilà. Donc, il y a 4 choses distinctes à réaliser, 2 de principe, 2 de pratique. Premièrement, verset 2, il est dit « pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence ». Salomon, vous connaissez, vous rappelez l'histoire de Salomon, il a demandé la sagesse à Dieu, Dieu lui a donné. Alors, il est bien placé pour nous dire qu'il s'agit avant tout de la connaître. Alors, cette sagesse, c'est quoi ? C'est avoir une juste appréciation des choses. Elle contient tout ce que l'expérience va nous apprendre sur ce chemin. Elle n'a rien à faire avec la sagesse humaine, encore une fois, c'est vraiment important. La sagesse, la connaissance de toutes choses selon leur vrai caractère, c'est en Dieu. Et Christ, c'est le représentant parfait de cette sagesse. Il a été fait sagesse. Il est la sagesse de Dieu. Hein ? Rappelez-vous, 1 Corinthiens 1, 24 nous dit « Puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. » La seconde chose de ce livre, elle est destinée à nous faire connaître. Ça, c'est l'instruction. Parce qu'en même temps qu'on connaît la sagesse, le bien parfait, en même temps, on a été mis en garde contre le mal. Et donc, encore une fois, l'instruction prend des fois la forme de discipline. Des fois, on sent que Dieu n'est plus là. Des fois, c'est aussi simple que ça, la discipline. Ce n'est pas forcément des coups de fouet. Hein. Des fois, on veut pas que, dans nos cœurs, on ne veut pas entendre. Alors, on est distrait. Mais Dieu ne se lasse pas, comme ça a été dit. Dieu ne se lasse pas. Ensuite, c'est pour comprendre les paroles de l'intelligence. Alors, pour comprendre les paroles de l'intelligence, ou pour les discerner, eh bien, en fait, c'est savoir, justement, discerner ce qui est la pensée de Dieu et ce qui ne l'est pas. Parfois, vous savez, des fois, on dit « moi, je sais, moi, je pense, moi, j'ai raison, moi, moi, moi ». Et puis, est-ce que c'est Dieu qui parle ? Des fois oui, mais des fois non. Là encore une fois, parce que c'est des fondements spirituels, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous donner ces paroles d'intelligence. C'est lui qui va nous donner de discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Des fois ça peut être très joli, mais ça ne vient pas de lui. Dieu va nous faire grandir dans cette dimension-là. Hein ? Ensuite, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, de droiture et d'équité. Les proverbes, en plus de nous faire connaître l'instruction, ils ont un autre but qui est dit là, ils veulent nous la faire recevoir. Connaître, c'est une chose, recevoir, ça en est une autre. Donc les proverbes, ils ont aussi ce rôle. On est mis par eux à l'école, hein ? On est mis par eux à l'école afin d'être informé, afin de savoir qu'est-ce qui concerne la justice. La justice, c'est quoi ? La justice, c'est juste la manière de marcher avec Dieu dans ce monde. ce que Dieu dit des choses et en évitant de laisser le péché entrer dans notre chemin. Et la droiture, c'est une forme de justice, c'est celui qui marche droit. Vous savez, la parole de Dieu dit ni à gauche, ni à droite. Voilà, c'est ça la droiture dans notre vie. Et là aussi, c'est un chemin d'instruction. C'est un chemin, mais c'est ça qui est incroyable. C'est un chemin qu'on ne peut pas connaître si on ne veut pas le recevoir. On ne peut pas connaître quelque chose si on ne le reçoit pas. Ça paraît une évidence, mais parfois, c'est bon de répéter des évidences. Ensuite, il y a pour donner du discernement aux simples et de la connaissance et de la réflexion aux jeunes gens. C'est incroyable, hein, c'est complet. Alors, pour donner, dans d'autres versions, c'est écrit pour donner aux sots ou aux stupides. Moi, je préfère simple, c'est moins violent, quoi. Hein. Pour donner aux simples de la prudence. Les simples, dans la parole de Dieu, c'est ceux qui sont privés de sens. C'est les insensés. Et il y a un verset qui dit que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Exactement. C'est tout simplement ça. Donc, les simples, ils sont aptes à être conduits, ils sont fragiles et ils peuvent aller dans une mauvaise voie sans s'en rendre compte, de la manière la plus sincère, par ruse, par méchanceté de ce qui les entoure. Alors la sagesse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va leur enseigner, elle va vouloir leur enseigner la prudence. Le discernement, vous savez, subtil, là, qui nous met en garde, hein, attend pour ne pas nous engager dans une mauvaise voie. Vous savez, des fois dans nos vies, on a des choix. Enfin, pas des fois, il n'y a pas un jour où on n'a pas de choix. Eh bien, ça nous invite à nous poser et à nous poser devant le Seigneur. Fondement spirituel. Ce n'est pas juste des maximes, c'est vraiment autre chose. Ensuite, la réflexion ou la connaissance aux jeunes gens. C'est intéressant ça aussi. Alors parfois, si on prend ce verset, la réflexion ou la connaissance aux jeunes gens, sans le Saint-Esprit, des fois, c'est un rêve. Hein. Moi, j'ai pas mal d'employés jeunes. Je vise personne. Pas du tout, en plus, c'est vrai. Mais des fois, la connaissance, la réflexion, des fois, ça fonce, hein, les jeunes. Et ce qui est super. Mais bon, des fois... Mais, et c'est là la bonne nouvelle, c'est que c'est un livre spirituel. Il faut toujours avoir une vision spirituelle des choses. Alors oui, ça peut être un doux rêve s'il n'y a pas le Seigneur. Mais si vous vous souvenez dans le livre de Job, vous en souvenez, à un moment donné, il y a Job et ses trois amis, ils discutent. Et puis, à un moment donné, il y a un jeune qui s'appelle Élihu. Vous savez ce qu'il, vous vous rappelez ce qu'il dit? Il dit un verset fantastique. Bon, il n'ose pas intervenir, puis à un moment donné, il n'en peut plus, il craque. Et il dit ceci. « Je pensais que le grand nombre des années enseignera la sagesse. » Mais en réalité, dans l'homme, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc vous voyez, on peut être enseigné par un jeune, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne le souffle de l'intelligence. Voilà. Alors ça n'empêche pas, bien sûr, que d'un point de vue humain, bon, on peut conseiller, hein, quand on a vieilli, on a fait des expériences, on peut donner des conseils, on peut conseiller les plus jeunes dans la voie du Seigneur, on transmet notre expérience. Mais sans jamais oublier que c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est le vrai transmetteur. L'expérience, l'âge, ok, mais c'est le Saint-Esprit qui passe devant. C'est celui qui est devant nous. Ce n'est pas notre expérience. Alors voilà, les deux premiers sujets, si vous regardez bien, embrassent les principes de la sagesse, ce qu'elle est, ce qu'on doit connaître, la manière dont elle s'exprime, ce que l'on doit entendre. Mais maintenant... Quand on a connu ça, il faut apprendre à mettre en pratique cette sagesse et comment on doit se conduire dans ce monde. Et alors pour cela, la sagesse, elle va se mettre en devoir de nous donner une juste perception des choses, comme Dieu les voit. Elle va nous instruire dans le bon sens, la justice. Ensuite, elle va nous enseigner de quelle manière on doit se comporter dans toutes les circonstances de la vie. Elle nous donne le discernement pour marcher comme des enfants de lumière. Mais encore une fois, l'importance... qui est mis dans les proverbes, c'est de bien écouter. De bien écouter. En fait, en paraphrasant, on pourrait dire que sans la connaissance que Dieu nous donne, on ne sait rien. Et par conséquent, on ne peut rien faire qui lui soit agréable. rien. Hein ? L'apôtre Paul, il nous dit qu'on pourrait brûler. Bah, même ça, ce serait rien. C'est le gars qui... C'est un peu décevant, hein ? On pourrait brûler. Des fois, on ne réalise pas. Hein ? C'est fort, quand même. Ben non, rien. Sans la connaissance que Dieu donne, on ne peut rien faire qui lui soit agréable. Mais on ne peut le connaître sans le Saint-Esprit. Et c'est encore une fois incroyable. Au verset 23, il dit ceci. « Je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. » On est dans l'Ancien Testament. Vous savez qu'il y en a qui font la distinguo avant, après. Non. Ce principe, c'est universel. C'est l'Esprit de Dieu qui souffle. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait connaître. On ne peut pas échapper à ça. Sinon, on deviendra des religieux, tout simplement. On mettra peut-être en pratique même les proverbes, mais sans l'Esprit du Seigneur. Donc c'est un danger là-dessus. Jésus, c'est notre exemple parfait dans ce monde. Chaque fois qu'on veut comprendre comment on fonctionne dans le monde, il faut aller lire l'Évangile, ce que Dieu dit, ce que Jésus dit. Je juge selon ce que j'entends. Selon ce que le Père m'a enseigné, je dis ces choses. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que moi je fais toujours les choses qui lui plaisent. Là, c'est Jésus homme. Jésus homme, c'est notre grand frère. Eh bien, il ne m'a pas laissé seul, je fais toujours les choses qui lui plaisent. Voilà le plan pour chacun de nous. C'est pas rien. Alors ensuite, avec les bons conseils, la connaissance, l'écoute, le Saint-Esprit, la preuve véritable de l'écoute, c'est toujours la même. Comment on sait que j'écoute ? Allô ? C'est pas grave. Comment on sait ? Ben, vous le savez, c'est la mise en pratique. Hein ? C'est-à-dire quand vous allez marcher dans l'obéissance. Dieu nous demande quelque chose, oh, c'est super, je l'entends, génial. Ben, obéis. Hein. C'est simple. Hein. C'est pas si simple. Hein. C'est pas si simple, sinon la vie serait très simple. Mais elle est un peu plus compliquée. Mais regardez ce verset dans Jacques 1, versets 22 à 25, pareil. Il pourrait être dans le livre des Proverbes. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, mettez-la en pratique. Dites pas... des fois, on lit un truc, on dit c'est génial. Mais ça veut dire aussi que peut-être le Seigneur nous interpelle. Mais il ne nous interpelle pas pour qu'on y réfléchisse. Le mettre en pratique. Qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie ? Qu'est-ce que je peux entendre ? Le Seigneur me demande, je ne sais pas moi, il m'interpelle sur le fait que il faut s'aimer les uns les autres, que c'est formidable, c'est génial. Waouh, c'est génial, c'est génial. Puis à côté, mon voisin, je ne peux pas le voir. C'est génial. Non, il faut s'aimer les uns les autres. Si Dieu te dit ça, c'est pour que ton voisin que tu ne peux pas voir, à un moment donné, tu demandes au Seigneur du courage, tu vas le voir. Peut-être déjà tu commences une relation, peut-être que tu lui demandes pardon, bref, peu importe, mais tu le mets en pratique. Tu obéis à ce que Dieu te demande. Tu ne peux pas grandir si tu n'obéis pas. Je vous tutoie, pardon. Vous ne pouvez pas grandir. Je ne peux pas grandir si je n'obéis pas à ce que Dieu me demande, à ce que mettre en pratique. Ça, c'est le vrai chemin. Dans toute la parole de Dieu, c'est dit sans arrêt que c'est le chemin de la liberté et du bonheur. Hein ? La liberté de ne pas faire notre propre volonté, mais de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est la vraie liberté. Ça, c'est la vraie liberté. Et comme Jésus le dit, je vais le répéter, je fais toujours les choses qui lui plaisent. Bon, c'est Jésus. En même temps, nous, des fois, on est un peu moins performants quand même. Hein ? Faut être modeste, faut l'accepter. Hein ? Alors ce bonheur qu'on éprouve dans ce chemin, chaque fois qu'on met en pratique, chaque fois qu'on obéit au Seigneur, ce n'est pas un bonheur passager, c'est la joie. La joie du Seigneur sera ma force. C'est vraiment cette joie. C'est savoir que Dieu nous regarde. Dieu a un regard bienveillant sur nous, ça nous met en joie. Ça veut dire aussi que dans ce chemin, il ne nous laissera pas. Hein ? Quoi qu'il arrive, il ne nous laissera pas. Dans le livre de Job encore, il est dit, « Il ne retire pas ses yeux de dessus le juste. » Nous sommes des justes, selon le Seigneur. Il ne retirera jamais son regard sur nous. C'est merveilleux. Donc les proverbes nous sont donnés pour connaître la sagesse. Un autre principe qui est à la base, c'est quoi ? La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la connaissance, la parole de Dieu nous dit. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Craindre l'Éternel, c'est quoi ? C'est se trouver en sa présence pour donner dans notre cœur la place qui lui est due. C'est ça la crainte de l'Éternel. C'est merveilleux de le laisser entrer. Cette conviction-là, c'est le commencement de la connaissance. Hein ? Parce qu'on ne peut pas rester devant le Seigneur en le haïssant, en faisant le mal sous toutes ses formes. Hein ? On ne peut pas. On ne peut pas. Donc c'est quand même une crainte extrêmement positive. On se trouve devant la bonté suprême. Et Dieu nous enseigne à quoi ? Il nous apprend à l'aimer. C'est absolument incroyable. Il nous apprend à l'aimer. Voilà. Donc c'est ça la crainte de l'Éternel. C'est une merveilleuse crainte. C'est la crainte de l'Éternel, ça revient à dire, je vais prendre... Je ne sais pas quel exemple. Si, j'aime pas trop conduire, par exemple. D'accord ? Je ne sais pas où je vais aller là. On va voir. J'aime pas conduire. La crainte de l'Éternel. Non, ça n'a pas de sens. C'est tombé. La crainte de l'Éternel, vous avez compris ce que c'est. Hein ? Voilà. Quand il y a un exemple, je prends un bon exemple. Il n'est pas bon. On change. On rebondit et on continue. Alors. Cette conviction, c'est le commencement de la connaissance, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, en un mot, la crainte de l'Éternel, il y a un psaume 34, verset 14, qui va être meilleur qu'un exemple. Ça dit ceci, « Retire-toi du mal et fais le bien. Retire-toi du mal, fais le bien. Cherche la paix, poursuis-la. » Tout est dit, tout est dit. On donne à Dieu la place qui lui appartient, et ils deviennent le tout pour nous quand nous sommes dans sa présence. C'est ça, la crainte de l'Éternel. Voilà, l'autorité du bien parfait est reconnue. Et chaque fois qu'elle est reconnue dans notre cœur, elle va être reconnue dans notre vie. Et de notre part, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir de l'honneur, on va avoir de la déférence, on va avoir de la confiance, on va avoir de la soumission, de l'obéissance, de l'amour. On va lui redonner ça en permanence. Parce qu'on reconnaît que lui seul... C'est le seul qui est capable de nous amener sur le bon chemin et de nous amener jusqu'au bout. Et les fous méprisent cette sagesse. Hein ? Alors quand cette sagesse parle, pareil, hein, c'est toujours dans le livre des Proverbes, vous le lirez, elle parle de deux manières, dedans et dehors. Alors dedans, ben, c'est la sagesse dedans, c'est au-dedans de notre cœur. On est déjà ses enfants, et c'est ce que je vous ai partagé depuis le début, et Dieu vous parle, et Dieu vous parle. Et Dieu vous parle à votre cœur. Trois fois, il est répété « mon fils ». La première fois, il y a le commandement d'écouter ses parents. Ça a été dit. Et d'obéir. Et les deux autres fois, c'est l'avertissement solennel de ne pas écouter les pécheurs et d'éviter le mauvais chemin. Voilà. Ça, c'est pas plus pratique que notre... Ça, c'est vraiment notre vie. Hein ? Voilà. Et il y a une bénédiction positive à écouter, entre autres, ses parents. Ce sera une guirlande de grâce à ta tête et des colliers à ton cou. Alors si vous voulez avoir plein de colliers, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein ? Il va falloir écouter, obéir à ses parents. Bon, pour ceux qui n'ont plus de parents, ben, à tout ce monde spirituel, au Seigneur, aux frères, aux sœurs, aux bons conseillers, etc., etc. Donc l'obéissance doit être sans réserve, de bonne volonté, de bonne grâce. Dieu veuille que nous soyons tous obéissants. Hein ? Alors pourquoi ? Parce qu'on sera les êtres les plus heureux au monde. Vous savez, quand quelqu'un il commence à sortir du chemin, vous savez, de la droiture, ni à droite ni à gauche, tranquillement, le premier truc qu'il perd, vous savez ce que c'est ? Maintenant, j'ai 57 ans, non, 56, j'ai l'expérience, je l'ai vu, c'est la joie. On perd sa joie. Vous savez, la joie du Seigneur sera ma force. Tranquillement, on perd sa joie. Avant, on était marrant, on n'est plus marrant. C'est important, la joie. Et vous verrez, si certains passent par là, je suis sûr que ça les touchera, parce que c'est vraiment un truc incroyable. Au fond d'eux, quand on perd la joie, tranquillement, pareil, on critique, tranquillement. Ça, c'est pas bien, moi, je ferais mieux, ça, c'est ci, ça, c'est... Tranquillement, etc. etc. Puis à un moment donné, parce que le Seigneur est là et il a toujours un œil sur nous, le Seigneur nous reprend tranquillement et nous ramène. Des fois c'est un peu difficile, des fois c'est dur, mais c'est pas grave. Dieu nous aime et on repart. Voilà. Donc il y a une bénédiction positive à écouter, hein, une guirlande de grâce sur ta tête. Voilà. Voilà. Et chaque fois que vous voulez penser à l'obéissance, pensez au modèle le plus parfait qu'on ait jamais eu sur cette terre, le Seigneur Jésus-Christ. Pensez à Jésus, par exemple, dans l'exemple des parents. Jésus, il a été obéissant à ses parents. C'était Dieu, accessoirement. Nous, des fois, on est désobéissants, mais lui, c'est Dieu, il est obéissant à ses parents. C'est vraiment, on ne peut pas avoir plus d'exemples, plus concrets. Hein. La nourriture de Jésus, c'était de quoi ? De faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. C'était ça, sa nourriture. Voilà. Donc, pardon. Donc, les deux choses vont toujours ensemble. Hein. Jésus nous le rappelle, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit accomplie. Votre joie soit accomplie. Voilà. Alors, quand on dit que les chrétiens, c'est des gens joyeux, c'est vrai, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de tristesse, ça ne veut pas dire quand on perd quelqu'un qu'on rigole, oh, c'est merveilleux, non. On est des humains. Mais la joie du Seigneur, c'est vraiment quelque chose, c'est un fondement. Voilà. Et quand vous avez perdu cette joie, parlez-en à quelqu'un. Demandez qu'on prie pour vous. Parce qu'encore une fois, on pourra vous donner des bons conseils. Moi, j'ai remarqué que les gens n'écoutent rarement les conseils. Bon, moi aussi, le premier d'ailleurs. Hein, vous remarquerez, hein, souvent on vient demander un conseil. En général, quand les gens me demandent un conseil, je ne dis pas que ça n'arrive pas. Hein. On n'a pas beaucoup qui écoutent hein, quand même. Ils sont déjà, leur conseil, déjà, c'est prêt. Quoi. Leur réponse est prête. Non, mais c'est vrai, il faut être honnête. Mais c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais je reviens. Donc, soyons obéissants. Voilà, soyons obéissants au Seigneur. Oui, voilà, c'est parce que c'est un fondement spirituel. Voilà. C'est parce qu'on va chercher la réponse du Seigneur. Et quand on demande à un frère... qu'on prie ensemble, quand si vous avez perdu cette joie, ben, c'est ça, c'est, on s'accompagne l'un l'autre. Même la personne à qui vous allez demander conseil, elle n'est pas plus que vous. Prenez-le comme un frère. Et des fois, plutôt que de donner des conseils, on peut juste se poser et prier. Le Saint-Esprit agit. Ce n'est pas juste un truc, ça agit, ça marche. Dieu nous parle, parole de connaissance. Là aussi, donc, le Seigneur... l'autre appel, c'est celui de la sagesse au dehors. La sagesse au dehors, c'est génial ça aussi. Jamais le Seigneur ne se lassera de se faire reconnaître à ceux qui ne le connaissent pas. Hein ? Elle s'adresse, cette sagesse, à ceux qui sont loin de Dieu, aux pécheurs, au dehors. Et si vous regardez cet appel, il est dit que la sagesse crie. La sagesse crie au dehors. Hein ? Vous voyez, elle ne fait pas... Non, non, elle crie, voilà. Elle crie hautement, parce qu'il faut que tout le monde l'entende. Ça doit nous parler aussi. Elle crie partout, parce qu'il faut laisser passer personne. Elle invite, elle supplie, vous le lirez. Elle le dit à tous, convertissez-vous. Hein ? Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Hier soir, moi aussi, j'y étais rue Séguier, je suis arrivé vers la fin. C'est vrai que c'était génial, le gars qui a voulu, Chantal lui a dit, oh, ben, tiens, on a un jongleur. Il a jonglé pendant que les autres jouaient, c'était génial. Au début, parce que je suis mauvaise langue, je me suis dit, bon, comment il va jongler, lui, avec un truc, ça va. Non, c'était bien, c'est bien débrouillé, c'était super. Bref. Et Chantal, juste après, elle a parlé. Et je, parce que j'avais préparé mon message avant, je me suis dit, eh ben voilà, c'est ça la sagesse qui crie au dehors. Elle a crié, elle a parlé du Seigneur, elle a déclaré l'évangile. Parce que Dieu ne se lasse pas d'inviter au salut. Et il ne se lassera jamais. Donc c'est ça la sagesse. Il ne désire pas la mort du pécheur. Voilà. Et c'est nous les enfants de cette sagesse. Là aussi, alors on ne doit jamais se lasser de crier au dehors. Chacun avait son style, sa manière, mais on doit toujours témoigner. Toujours témoigner de son amour à ceux qui ne le connaissent pas. Chacun avait son style, peu importe. On est des enfants de lumière. Donc on doit crier haut et fort que d'abord on lui appartient et qu'on invite les personnes à le connaître. Encore un autre point. Hein. C'est le jour du salut. Hein. Jésus, il crie du ciel. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc vous voyez, c'est encore cela. Alors ce matin, peut-être le Seigneur dit à certains, je ne vous connais pas tous, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ?» Il faut venir à lui pour avoir la vie. Parce que c'est lui la sagesse. La sagesse de tous les proverbes, c'est lui. C'est la personne de Jésus-Christ. Cette sagesse, elle est parfaite. Elle est le chemin, la vérité et la vie. C'est en cela qu'elle est la sagesse parfaite de Dieu. Hein ? C'est le plan parfait. C'est le plan parfait. Puis, à la fin du premier chapitre, il y a une alternative terrible qui est présentée. Vous le direz aussi. Par celui qui refuse la connaissance et la crainte de l'Éternel. Et regardez bien par opposition. Au verset 7, il est dit ceci. « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » Et au verset 29, il est dit. « Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. » C'est incroyable. Il y a vraiment deux camps. Voilà. Il y a ceux qui ont choisi la crainte de l'Éternel, et c'est le début de la science, le commencement de l'intelligence, mettez le mot que vous voulez. Et au verset 29, c'est parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. C'était leur choix. Des fois aussi, ça peut nous parler que des fois, dans notre chemin, nous-mêmes, ça ne remet pas en question le salut, ce n'est pas ça le sujet, mais des fois, on va haïr la science. On ne va pas choisir la crainte de l'Éternel. Hein, ça revient à ce que je disais au début. Des fois, on pense qu'on sait. Voilà. Non. C'est terrible pour celui qui ne veut pas écouter. Hein. Il rejette le conseil de Dieu contre lui-même, en fin de compte. Parce que vous savez, quand on n'écoute pas Dieu, c'est contre nous-mêmes. Hein. Il n'y a pas des fois un gagnant, des fois un perdant. Hein. On perd à tous les coups. Hein. Vous savez, c'est comme un match de boxe. Hein. À tous les coups, on perd. Là. C'est même pas la peine d'insister. Voilà, mais comme d'habitude dans la parole de Dieu, et c'est ça qui est formidable, fin du chapitre 1, verset 29, il y a ce que je viens de vous dire, parce qu'ils ont haï la science, qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, ben, ils se sont condamnés eux-mêmes. Mais verset 33, il est dit, « Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité. Celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille. » Tranquille, ça veut dire sera dans le repos, sans crainte du mal. Heureusement, hein. Donc, une merveilleuse invitation à écouter le Seigneur. Hein? Amen. Voilà, c'est comme cela que Dieu prend plaisir à présenter la grâce. Aussi longtemps que dure le jour du salut. Hein? Aussi longtemps que dure le jour du salut. Donc, des fois, nous sommes cette sagesse et nous sommes appelés à crier au dehors. Voilà. Parce qu'il y a des gens perdus. Et que le Seigneur touche nos cœurs aussi. Vraiment, je m'inclus là-dedans. Mais en tout cas, pour revenir, c'est pas pour magnifier Chantal, elle en serait d'autant plus gênée, mais c'était génial, quoi. Voilà, elle a annoncé l'évangile, j'allais dire, comme au bon vieux temps. Ben oui, comme au bon vieux temps, sauf qu'il y avait des gens qui sont rentrés et qui ont certainement été touchés par la grâce de Dieu. Voilà. Et d'ailleurs, il y avait une vie dans cette salle, hein, entre parenthèses. Vous voyez, il y avait de la joie, par exemple. Il y avait de la joie, c'était plutôt sympa, quoi. Voilà, ça faisait ni... Non, c'était super. Voilà, donc il y a vraiment, quand on annonce le Seigneur, il y a de la joie. Hein? Voilà, amen, soyez bénis, lisez les proverbes, attaquez ce soir chapitre 10, vous allez voir, vous allez vous éclater. Voilà, et puis je vais aussi finir avec ce verset, parce qu'il est extraordinaire, et oui. Bon, si je vous avais vraiment captivé, normalement, il y en aurait eu un qui aurait dit « Oh, et le verset !» Apparemment, ça n'a pas bien marché. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je vous pardonne. Non, plus sérieusement, il y a un verset qui dit ceci. Proverbe 30, verset 4, il dit « Qui est monté aux cieux ?» Ouais, affiche-le, Alexis. « Et qui en est descendu ?»« Qui a recueilli le vent dans ses mains ?» Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? C'est une blague, ce verset. On est dans l'Ancien Testament. C'est Dieu, non? A priori, je ne pense pas que ce soit un homme qui a recueilli le vent dans ses mains. ou alors il est fort. On parle du Seigneur, c'est l'Éternel. Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Dieu a un fils. C'est génial, non? Vous voyez, je vous l'avais dit. Donc, ce verset parle de Dieu. Hein, et c'est marrant parce que vous vous rappelez dans le Nouveau Testament, par quel nom on peut être sauvé? Et là, il y a vraiment l'analogie. Et Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et là, quel est son nom? Ce sera dévoilé dans le Nouveau Testament. Jésus. C'est merveilleux, la parole de Dieu. Voilà. Je vous invite à vous lever, qu'on prie, qu'on soit dans la joie ce matin. Amen. Seigneur Jésus, merci de bénir chacun ici dans cette salle, de bénir toute personne, celle qui te connaît, à qui tu veux renouveler sa joie, son espérance, son écoute, ta bonté, Seigneur Jésus. À ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus, à qui tu veux ce matin offrir ton salut, Seigneur Jésus. Merci parce que tu touches les cœurs. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce qu'on est heureux de t'appartenir. Amen.